Nous étions arrivés à la veille de la Révolution française et bien évident que le chaos révolutionnaire qui s'installe entre 1789 et 1792 en particulier va avoir des conséquences assez dramatiques sur la situation des luthériens dans la région parisienne. Et les luthériens vont subir le contre-coup de cette Révolution française. D'abord parce qu'un certain nombre de gens se détachent de la foi et par conséquent se détachent du luthérianisme. C'est le cas en particulier de tous ceux qui ont des professions d'artistes. C'est très intéressant de voir que les artistes ont été les premiers à lâcher à apostasier, si j'ose dire, et à adopter les idées révolutionnaires les plus extrémistes. Certains, par exemple, vont participer à la prise de la Bastille, d'autres iront jusqu'à s'engager dans la garde nationale, et puis même un certain nombre d'entre eux finira sur la guillotine. Ce qui est un petit peu l'itinéraire normal en pareil cas. Bon, deuxième conséquence de la Révolution française, c'est que beaucoup de luthériens étrangers, allemands, suédois, danois, etc., qui étaient installés à Paris, vont profiter de la Révolution française pour se faire naturaliser français. Ce ne sera pas toujours d'ailleurs une bonne chose qu'ils feront, parce que certains d'entre eux aussi, ça les conduira à mal, ça les conduira à la guillotine également. La Révolution française attire également de nouveaux immigrants qui, attirés par les idées révolutionnaires, viennent s'installer en France. Et nombre de luthériens sont entraînés dans les nombreuses intrigues politiques qui marquent justement cette période révolutionnaire. La plus célèbre de ces intrigantes sera sans conteste Madame de Staël, qui ne se contentera pas de quelques intrigues politiques, mais qui ajoutera aussi, bien entendu, des intrigues sentimentales. Tout ça mêlé, ça va faire un cocktail assez particulier. Au moment de la chute de la monarchie, les Suédois vont prendre fait et cause pour, justement, la monarchie française, et ils feront tous leurs efforts pour sauver le couple royal. Et c'est ainsi qu'un luthérien va fournir la voiture, la berline, dans laquelle s'enfuira le couple royal au moment de la fameuse fuite à Varennes, où ils seront donc rattrapés. La chapelle de Suède, de ce fait, devient suspecte, et il faut l'intervention de cette égérie de la Révolution, qui est Madame de Staël, pour que, en quelque sorte, la chapelle soit sauvée. Autre conséquence de la Révolution, les artisans sont touchés de plein fouet par la Révolution française parce que la Révolution française voit un effondrement du commerce des articles de luxe dans lequel s'étaient spécialisés justement les artisans originaires d'Allemagne et d'ailleurs qui formaient l'essentiel justement des paroisses luthériennes de Paris. Et donc leur situation va devenir extrêmement précaire. La situation des luthériens va redevenir encore beaucoup plus précaire lorsque le couple de Staël, comprenant que le terrain brûle sous leurs pieds, va quitter la France pour se mettre à l'abri à cause justement de la terreur qui les guette. Et c'est alors que le danger atteint son paroxysme quand un jour, n'est-ce pas, un envoyé du gouvernement, du tribunal révolutionnaire, n'est-ce pas, fait irruption chez le pasteur. Le pasteur, fort heureusement pour lui, n'est pas là. C'est sa femme qui reçoit le membre du comité de salut public qui demande le registre des paroissiens de la chapelle. Alors, le registre avec nom, adresse, etc. Vous imaginez ce qu'il y avait derrière. Il s'agissait, bien entendu, d'arrêter tout ce monde-là et de les envoyer tous à la guillotine. Et la femme du pasteur va s'opposer, mordicus. Elle refusera de livrer le registre, sauvant ainsi la paroisse. Et par son courage, par sa détermination, par son habileté aussi, eh bien, elle éconduira le membre du comité de salut public qui était venu réclamer ce fameux cahier avec la liste des membres et sauvera ainsi ces gens-là. Néanmoins, le comité de salut public tient à se venger. Et l'ambassadeur de Suède est arrêté, ce qui est d'ailleurs une entorse grave aux usages diplomatiques, car en principe, les représentants des puissances étrangères jouissent de l'immunité diplomatique. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être l'objet de poursuites judiciaires dans le pays où ils sont représentants. Mais là, évidemment, nous sommes dans une situation où l'arbitraire a succédé à l'état de droit et l'ambassadeur, donc, est arrêté, traduit devant le comité de salut public, c'est-à-dire, logiquement, on n'en sort pas vivant. Logiquement, ça vous conduit tout droit à la guillotine. Mais là, quand même, c'est une des rares fois où le comité de salut public ne prononcera pas une condamnation à mort, mais un non-lieu, précisément parce que l'ambassadeur parvient quand même à arguer de son statut de membre du corps diplomatique. Il plaide à fond pour l'immunité dont il jouit, et finalement, le comité de salut public va avoir peur et va reculer. Va reculer devant ce qui aurait été évidemment un crime grave, non seulement aux yeux de la France, ça ils s'en fichaient comme de l'an 40, mais surtout devant les puissances internationales. Et donc cette période va être une période extrêmement difficile pour tous les chrétiens qui sont en France d'ailleurs, et qui va nécessiter de la part des pasteurs qui se trouvent là, beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation et surtout beaucoup de foi. Mais les pasteurs qui sont alors en poste en ont. Et malgré le danger, malgré les délations, malgré les abandons, malgré les apostasies des plus lâches, eh bien, l'œuvre va se poursuivre. Et on voit même cette chose tout à fait étonnante, qu'un certain nombre de catholiques se convertissent au protestantisme pendant cette période et se font baptiser secrètement, bien entendu, là, non pas parce que c'est protestant, mais parce que c'est chrétien, tout simplement, parce que se faire baptiser, c'est un crime aux yeux de l'État nouveau, n'est-ce pas, qui s'est créé en France, et ils se font baptiser secrètement, donc à la chapelle du Danemark en particulier. En fin de compte, à la chapelle du Danemark, 19 paroissiens seront arrêtés, traduits devant le comité de salut public, condamnés à mort et immédiatement exécutés. Bon, c'est une proportion qui est quand même importante, mais quand même qui aussi, d'une certaine manière, ne va pas mettre en péril, malgré tout, l'existence de la chapelle. Mais bien entendu, quand on apprend que ces gens-là ont été guillotinés, un certain nombre de gens sont un petit peu refroidis, et le zèle spirituel de beaucoup se refroidit, dans des circonstances pareilles, c'est souvent ce qui se passe, et les offices sont pratiquement désertés, n'est-ce pas ? Le pasteur prêche devant pratiquement des bancs vides. Par la même occasion, forcément, les offrandes baissent considérablement en proportion de la non-assistance, tant et si bien qu'il faut liquider l'infirmerie, et il faut donc vivre en serrant les cordons de la bourse d'une manière très, 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 très importante. Il faudra attendre 1796 pour que les choses commencent un petit peu à rentrer dans l'ordre. En 1795, un an auparavant, les deux Staël sont revenus en France. Et les deux Staël ont de la fortune, bien entendu, ce qui fait qu'ils renflouent les caisses des chapelles. Bon, évidemment, ce sont des gens fortunés, mais c'est peut-être pas spirituellement les plus extraordinaires des paroissiens, n'est-ce pas? Surtout que le ménage là est particulièrement bancal au moment où ils reviennent de Suède, et notamment Madame de Staël attend un enfant d'un nouvel amant. Alors voilà le genre de personnes, n'est-ce pas, qui représentent les paroissiens les plus fervents de la chapelle du Danemark. C'est pas évidemment l'idéal. Et c'est à cette époque-là, n'est-ce pas, que un nouveau pasteur prend ses fonctions. Et il est originaire du Holstein, s'appelle le pasteur Göring, et il va être en poste pendant 28 ans à Paris. Il va maintenir un culte tous les dimanches pendant la Terreur, sans interruption et sans crainte. Les offices vont être suivis, en fin de compte, par une vingtaine de familles seulement. Les plus courageux, les plus consacrés et ceux qui ont le plus de foi. Et finalement, ils traverseront la tempête sans être inquiétés plus que cela. C'est l'époque où le Danemark est la première puissance à reconnaître la République française. Ce qui fait que les relations diplomatiques entre la France et le Danemark ne seront jamais rompues, que donc la représentation diplomatique restera constamment à Paris, Par conséquent, ce qui dépend de la représentation diplomatique, à savoir justement le pasteur restera aussi en poste en tant qu'officier, agent diplomatique d'une puissance étrangère. Donc, il sera protégé par ce statut qui est le sien. Bien sûr, pendant toute cette période-là, le petit groupe qui se rassemble là ne fait pas de vagues, on comprend. Il se replie sur lui-même et il attend des temps meilleurs qui vont venir à partir de 1795. À partir de 1795, puis au début du 19e siècle, à partir de 1800, si vous voulez, à partir du moment où se met en place le consulat, puis ensuite l'Empire, alors les luthériens vont connaître un nouvel essor. C'est le temps des notables, où la chapelle retrouve son éclat d'antan. Il y a un enrichissement qui se crée à nouveau, et tous ceux qui l'avaient déserté pendant la Révolution reviennent, évidemment. Ce n'est pas toujours extraordinaire, mais c'est ainsi que les choses se passent. Néanmoins, c'est une espèce d'aristocratie qui fréquente ces lieux de culte et qui n'est pas très très fervente spirituellement parlant et qui a des besoins spirituels finalement très limités. Pour ce qui est du menu peuple, il est ruiné par la Révolution française. Il y a finalement une situation qui ressemble un petit peu à ce que nous allons connaître vraisemblablement dans les années qui viennent, c'est-à-dire qu'il y a deux classes qui émergent à cette période-là en France. Il y a une classe riche qui a profité de la Révolution française pour s'enrichir et puis surtout des lendemains de la Révolution française pour se faire, et qui l'a fait évidemment au détriment des classes les plus pauvres qui, elles, sont dans la misère la plus noire. Et au lendemain de la Révolution française, ce qui caractérise l'économie de la France, eh bien, c'est une grande misère, c'est une grande pauvreté. La Révolution a ruiné la France. C'est souvent d'ailleurs c'est comme ça que ça se passe dans les révolutions. Il ne faut pas croire qu'on fait ça en principe pour le bonheur du peuple, et le peuple, bien sûr, est le premier à souffrir. En 1802, donc, le consulat remplace le directoire. Et le premier consul, qui est Napoléon Bonaparte, propose un concordat, c'est-à-dire propose de régulariser les problèmes en suspens, notamment avec les différentes religions, et plus spécialement avec le catholicisme, qui reste malgré tout la religion ultra-majoritaire en France. Et un concordat est élaboré qui permettrait donc de donner aux différentes religions catholiques, protestantes et juives, un statut officiel dans la France nouvelle. Les protestants se voient offrir ce que le pouvoir appelle des articles organiques qui régularisent donc la pratique de la religion protestante en France. L'essentiel des églises réformées accepte ces articles organiques, mais les luthériens parisiens les refusent. Ils les refusent pour différentes raisons. Tant et si bien qu'ils vont rester sous un statut juridique qui ne sera pas très bien défini, qui va d'ailleurs avoir des conséquences fâcheuses pour leur avenir, dépendant un petit peu, profitant du fait qu'en principe ils dépendent encore des représentations diplomatiques de la Suède et du Danemark en particulier. Bon, le but des luthériens, c'est de refuser la mainmise de l'État, qu'ils discernent avec juste raison d'ailleurs ces articles organiques, car Napoléon a une volonté centralisatrice très forte, n'est-ce pas ? Et la religion doit être encadrée pour être un instrument aux mains de l'État. Napoléon n'est pas quelqu'un qui a une foi débordante, loin s'en faut. Mais par contre, c'est un homme intelligent qui a vu le bien, n'est-ce pas, qu'un pouvoir qui sait l'utiliser peut tirer de la religion. C'est-à-dire qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont d'abord un peu faibles d'esprit et qu'un peu de religion leur fait du bien, ça les aide à vivre. Hein. Deuxièmement, la religion, quand elle est bien encadrée, va enseigner aux gens qu'il faut être soumis aux autorités, qu'il faut obéir à l'État, qu'il faut obéir aux représentants de l'État. Et finalement, Napoléon attend surtout que des différentes églises catholiques, protestantes et de la religion juive, qu'elles jouent ce rôle-là. Donc s'ils acceptent de calmer les esprits, de calmer les velléités de rébellion de la part du peuple, eh bien Napoléon est prêt à reconnaître l'Église comme un des éléments de la société, comme parmi d'autres, quoi, hein, parmi bien codifiés, bien canalisés, bien mis dans un moule. Alors les luthériens qui ont vu cette évolution-là la refusent. Ils la refusent. Et ce, d'autant qu'il y a une dérive très grande dans les églises protestantes en particulier, dont nous allons parler d'ailleurs dans quelques instants, c'est que la prédication de l'évangile véritable a été remplacée par la prédication de la philosophie des Lumières, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Et cette philosophie des Lumières, évidemment, enseigne la primauté de la raison, donc automatiquement fait référence à l'État comme étant une valeur. Alors évidemment, ça va tout à fait dans le sens de Napoléon, qui lui serait assez proche de cette vision-là. Les articles organiques impliquent vraiment des restrictions très importantes pour les Églises. D'abord, c'est que les églises ne peuvent pas prendre des décisions dans le domaine doctrinal sans se référer à l'État. C'est l'État qui doit donner son feu vert pour, par exemple, accepter ou refuser une modification de la confession de foi. On ne peut pas non plus faire des changements dans la discipline, c'est-à-dire dans l'administration d'église, dans le mode de nomination des pasteurs, dans les fonctions des anciens ou des choses comme ça, sans l'aval de l'État. C'est pas ? L'État a son mot à dire dans tous les domaines de l'Église. Alors on comprend que des gens qui ont une certaine foi, eh bien, refusent cette soumission de l'Église à l'État. On ne peut plus non plus se lancer dans une entreprise, par exemple achat ou construction d'un temple, transaction immobilière, sans l'autorisation de l'État. L'État réglemente et enrégimente tout. Alors, cette question de l'ingérence de l'État dans les affaires de l'Église met le feu aux poudres entre la France et la Suède. À cause, justement, de ces chapelles, Napoléon n'accepte pas que les luthériens refusent de se plier aux articles organiques qu'il a élaborés. Mais comme la chapelle dépend de la Suède, eh bien, les pasteurs répondent, adressez-vous à la Suède, adressez-vous au gouvernement suédois. Et le gouvernement suédois refuse de laisser l'État français, évidemment, réglementer les luthériens qui, en principe, dépendent de l'État suédois. Alors, à cause de ça, il y a une tension très vive entre l'État français et l'État suédois. Et le 13 août 1806, alors que le consulat a cédé le pas à l'Empire et que Napoléon de Bonaparte, qu'il était, s'est proclamé empereur des Français, eh bien, Napoléon pique un de ses coups de sang dont il a l'habitude et il décide la création d'un oratoire luthérien à Paris rattaché au consistoire de Strasbourg et la suppression pure et simple des chapelles étrangères. Donc, c'est un véritable coup de force que fait l'empereur. Et c'est ainsi que les choses se passent. Bon, pour bien montrer la suspicion dans laquelle il tient les luthériens, qui par conséquent ont gardé quand même une ligne plus évangélique que les réformés, l'empereur fait en sorte qu'ils soient rémunérés moindre que les pasteurs réformés. Parce que un des aspects du concordat, n'est-ce pas, c'est après le bâton, il faut quand même donner une carotte. Et la carotte, c'est que les pasteurs, les prêtres et les rabbins sont considérés comme fonctionnaires d'État et par conséquent sont rémunérés par l'État comme des fonctionnaires n'importe quoi, comme des instituteurs, comme des préfets, comme n'importe qui d'autre, quoi. Et ils ont une rémunération qui n'est pas inconséquente, loin de là. Mais dans le cas des luthériens, eh bien, on leur octroie un salaire de misère pour les humilier, pour leur apprendre à vivre en quelque sorte. Et c'est en octobre 1806 que le pasteur Gamps quitte Paris. Personne ne lui vient en aide. Et notamment, les notables qui sont la cheville ouvrière de la chapelle le laissent partir sans regret. Il n'était pas aimé par les notables, n'est-ce pas ? Par contre, il avait l'appui des petites gens. Il était très aimé par les petites gens de son église qui le voient partir avec beaucoup de regret. Il est muté en Poméranie. mais il va laisser sa famille en France quelque temps. Il entend revenir quelque temps plus tard, mais hélas, ça lui est impossible parce que la guerre fait rage, ce sont les guerres napoléoniennes entre précisément l'Allemagne et la France qui font que la situation est telle qu'il ne peut revenir en France. En 1807, il devient pasteur de l'église de Brême en Allemagne et par conséquent ne reste plus à Paris. A fonctionné que la chapelle du Danemark. Et les Suédois, qui ne veulent pas du consistoire luthérien qui a été créé par Napoléon à Paris, n'ont d'autre solution que de se rallier à la chapelle du Danemark. Alors, il va y avoir là un véritable coup de force des Suédois qui vont venir en masse dans la chapelle du Danemark et puis qui vont prendre le pouvoir là-bas. Un petit peu comme le coucou dans un nid étranger qui s'installe dans un nid étranger. Le 28 août 1717, le gouvernement français reconnaît l'existence d'une église luthérienne définitive à Paris avec deux pasteurs. Et le 11 août 1808, une charte est signée à Nantes qui est paraffée par l'empereur pour confirmer l'existence justement de cette église luthérienne de Paris. Alors, il faut créer un consistoire selon justement les lois françaises pour cela, qui est responsable devant l'État. Mais il manque d'argent pour pouvoir rassembler le consistoire voulu et les paroissiens réclament le retour du pasteur Gans. Ce dernier finit par accepter et puis finalement il tergiverse, il hésite, quand il voit les conditions qui lui sont faites, il cherche à se désengager. Et finalement c'est un certain Georges Boissard, qui est le fils d'un pasteur de Montbéliard, qui était originaire de l'église réformée, qui, âgé de 25 ans, est ancien révolutionnaire, sera pasteur de ce consistoire luthérien pendant 37 ans. Il arrive à Paris à l'été de 1809. Et c'est ainsi que une nouvelle page s'ouvre, si vous voulez, dans l'histoire des églises luthériennes qui va couvrir donc le 19e siècle puis le 20e siècle. Et de ces deux chapelles du Danemark qui ont été créées donc pendant toute cette période, ces deux chapelles luthériennes qui ont été créées pendant toute cette période, eh bien, sont nées aujourd'hui 17 églises luthériennes qui se trouvent dans la région parisienne. 17 églises luthériennes, c'est quand même assez considérable des deux églises qu'il y avait au départ. Bon, cette histoire, nous aurons l'occasion de la revoir quand nous étudierons le 19e siècle. Nous allons maintenant entamer un autre chapitre qui est extrêmement important. Très extrêmement important, non seulement pour comprendre l'évolution de l'Église aujourd'hui, mais également pour comprendre l'évolution de notre société tout entière. C'est l'essor du rationalisme. En effet, notre 18e siècle va porter un nom bien pompeux. Dans l'histoire, il est connu comme le siècle des Lumières. Qu'est-ce que l'on entend quand on parle du siècle des Lumières? Eh bien, on entend par là les lumières de la raison. Jusque maintenant, disaient les adeptes de ce mouvement des lumières, n'est-ce pas, qui sont essentiellement au départ des philosophes, eh bien, jusqu'ici, l'humanité avait vécu dans l'obscurantisme, et notamment dans l'obscurantisme religieux. À partir du 18e siècle, à partir des idées des philosophes du 18e siècle, enfin, la lumière jaillit. La lumière qui va chasser les ténèbres de l'obscurantisme. En fait, ce mouvement des lumières qui va s'épanouir au XVIIIe siècle est un mouvement beaucoup plus ancien, qui commence au XVIe siècle avec la Renaissance, même un peu avant si on veut, XVe siècle, et notamment avec l'humanisme, dont nous avons déjà parlé en son temps. Humanisme qui est contemporain du mouvement de la réforme. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme? L'humanisme, c'est un mouvement qui, comme son nom l'indique, place l'homme au centre de la réalité, des préoccupations et finalement de l'univers. Et l'humanisme de la Renaissance s'oppose à la vision du Moyen-Âge, qui était théocentrique. Le Moyen-Âge, avec tous ses défauts, avait au moins ce point positif, n'est-ce pas, c'est que tout le monde était d'accord avec le fait que ce qui était la chose importante, la chose durable, la chose éternelle, c'était Dieu. C'était la présence de Dieu. Un Dieu qui était présent dans l'histoire des hommes, qui intervenait dans l'histoire des hommes, qui était le Créateur et qui conduisait l'histoire vers son terme. Et l'omniprésence de l'Église au Moyen-Âge était la marque de ce théocentrisme qui caractérisait le Moyen-Âge. Déjà, à partir du bas Moyen-Âge, un certain nombre de gens s'accommodent formal de cette emprise de plus en plus grande de l'Église. N'oublions pas que le XIIIe siècle, en particulier, c'est l'époque de l'apogée de la papauté avec les grands papes comme Innocent III, etc., qui veulent régenter le monde. Et cela, bien entendu, ne va pas sans provoquer quelques oppositions. Bon, des oppositions qui sont souvent réprimées dans le sang. C'est l'époque aussi de l'Inquisition, née l'Inquisition, au XIVe siècle, n'est-ce pas ? Mais on n'étouffe pas les idées. On peut tuer les hommes qui professent les idées, mais souvent les idées survivent à ceux qui les ont émises, et c'est ce qui se passe. Et timidement d'abord, en Italie, à partir du XIIIe siècle, puis du XIVe siècle, du XVe siècle, jusqu'au moment de la grande explosion du XVIe siècle, eh bien, naît le mouvement dit de la Renaissance. C'est d'abord un mouvement qui touche les arts, parce qu'évidemment, on n'attaque pas de front la puissance de l'Église. C'est un mouvement qui touche les arts, et notamment les arts plastiques, le moment où on redécouvre la nature. Ça aussi, c'est très important. La redécouverte de la nature, qui avait été quelque peu occultée au Moyen-Âge, et le grand thème de la Renaissance. Alors, il y a une peinture naturaliste qui naît, par opposition à la peinture figurative qui avait marqué le Moyen-Âge. Si vous voyez, par exemple, si vous comparez des peintures du Moyen-Âge, par exemple des lithographies ou des enluminures, des choses comme ça, c'est une peinture figurative, ce n'est pas une peinture réaliste, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une peinture qui représente l'objet tel qu'il est. Hein, c'est une stylisation, il y a une espèce des règles conventionnelles, n'est-ce pas ? Bon. Et à partir du Moyen-Âge, là, au contraire, nous avons une peinture réaliste, une peinture naturaliste, qui peint les objets tels qu'ils sont. Par exemple, on vous peindra un paysage, on vous peindra... Mais surtout, ce qui va intéresser les artistes du Trecento, puis du Quattrocento, comme on dit en italien, n'est-ce pas ? C'est bien ça ? Eh bien, c'est la redécouverte de la beauté du corps humain. Et notamment, ce corps humain, on le dénude, ce qui est nouveau. Parce que, précisément, la morale de l'Église du Moyen-Âge interdisait, pour des raisons de pudeur, n'est-ce pas, la découverte du corps humain. Mais les artistes de la Renaissance vont avoir cette audace de dénuder le corps humain. Et, par exemple, on aura des choses, des outrances extraordinaires dans le domaine artistique, et un certain nombre d'artistes n'hésiteront pas, par exemple, j'ai oublié le nom de ces artistes, mais ce sont des artistes très connus, je ne sais pas si ce n'est pas Michel-Ange ou autre, ou Léonard de Vinci, n'hésiteront pas, certains d'entre eux, dans la chapelle Sixtine à Rome, n'est-ce pas, vous avez une Madone, une Vierge, n'est-ce pas, qui est peinte sous le maître-autel, qui est une très très belle femme, n'est-ce pas, au sein découvert, dans la chapelle Sixtine, c'est un peu curieux, n'est-ce pas, et qui n'est autre que la maîtresse du peintre, qu'il avait peint sous la forme de la Vierge. Vous voyez, la dérive qui commence à se manifester, donc, ici, dans le domaine artistique. Bon, ça joue dans le domaine de la peinture, ça joue dans le domaine de la sculpture, puis ensuite a lieu la fameuse chapelle Sixtine, n'est-ce pas, où là aussi, il y a des audaces assez extraordinaires, n'est-ce pas, Adam est peint nu, Ève est peinte nue, etc., les anges, bon, etc., il y a toute une nouvelle manière, si vous voulez, d'appréhender les choses à partir de la nature. Finalement, on dit, ben, c'est naturel et c'est beau. Le corps humain est beau. Pourquoi ne pas le peindre ? Pourquoi ne pas le montrer ? Pourquoi ne pas le découvrir ? N'est-ce pas ? Et c'est ainsi que naît l'humanisme qui place l'homme et la nature au centre de l'univers. Et alors, là, il y a un autre phénomène extrêmement grave qui va naître, dont la crise moderne n'est finalement que le résultat. Voyez-vous, ce qui naît ici à la fin du Moyen-Âge et au début des temps modernes va mettre des siècles pour déployer toutes ses conséquences. Et c'est finalement ici, à notre fin du XXe siècle, que les conséquences de ce qui ont commencé à la Renaissance sont en train de se manifester. Et alors, ce qui se manifeste, c'est ceci, c'est le domaine philosophique. Et là, nous arrivons justement à cette question des philosophes du XVIIIe siècle. Si vous voulez, le grand philosophe du Moyen-Âge était Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin qui avait repris la philosophie d'Aristote. Et Thomas d'Aquin avait réfléchi notamment sur ce qu'il appelait les universaux. C'est-à-dire, si vous voulez, le particulier et puis l'universel. Les universaux, c'est tout simplement cette idée. Il y a des idées qui existent d'un certain nombre d'objets. Par exemple, je prends une chaise. Bon, voilà une chaise qui est ici devant moi. Cette chaise, elle est en bois, elle a une certaine forme, elle a une certaine couleur, etc. Bon, donc c'est une chaise particulière. La chaise qui est de l'autre côté est d'une autre couleur. C'est une chaise différente. C'est aussi une chaise. Et donc, quand je fais abstraction de la chaise concrète qui est à côté de moi ou sur laquelle je suis assis, et que dans l'abstrait, je dis le mot « chaise », eh bien, ce mot évoque pour moi, pas obligatoirement une chaise comme celle-ci, mais si vous voulez, l'idée universelle d'une chaise, c'est-à-dire un objet sur lequel on s'assied, qui peut prendre toutes sortes de formes, qui peut être de toutes sortes de matériaux, qui peut être en bois, qui peut être en fer, qui peut être en pierre, qui peut être en plastique aujourd'hui, etc. Et tout ça, ce sera quand même une chaise, peut-être de couleur rouge, verte, jaune, brune, noire, blanche, etc. Bon, ça, c'est le particulier. Mais l'universel, c'est que tous ces objets-là, qu'ils soient de bois, de fer, etc., sont une chaise, c'est-à-dire un objet sur lequel on s'assied. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les particuliers et les universaux. Alors, dans tous les domaines, il y a des universaux. Je dis un homme, bon, qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Ben, ça peut être un individu particulier. Ça peut être Joël qui est en face de moi, qui est comme ci, qui est comme ça, qui est grand ou petit, qui est brun ou qui est blond, qui a un caractère comme ci ou un caractère comme ça. Ça, c'est le particulier. Mais bien qu'étant particulier, Joël est un homme comme Gilles est un homme. Et quand je dis le mot homme, je ne pense plus à tel ou tel homme en particulier, mais je pense à l'idée universelle, l'idée globale de l'homme. Alors je définis philosophiquement qu'est-ce que c'est qu'un homme. Ce n'est pas facile d'ailleurs. Philosophiquement, ce n'est pas facile de définir ce qu'est un homme. Et si vous voulez, la philosophie du Moyen-Âge disait ceci, eh bien finalement, ce qui est, les particuliers, doivent obligatoirement se référer à un universel. Et un universel qui est en dehors d'eux. Et l'universel ultime, qu'est-il ? Ça ne peut être que Dieu. C'est pas... Dieu était le point de référence obligé de toute la philosophie du Moyen-Âge. À partir de la Renaissance et de l'humanisme, il y a une évolution. Le centre de l'univers n'est plus Dieu, nous l'avons vu, c'est l'homme. C'est-à-dire, je pars de l'existence de l'homme. Parce que, finalement, l'existence de l'homme est le premier donné. Finalement, c'est la fameuse formule de Descartes, « Cogito ergo sum », « Je pense, donc je suis ». La première chose dont j'ai conscience, c'est que je suis. J'existe. Et la deuxième chose dont j'ai conscience, c'est qu'en dehors de moi, il y a des choses qui existent aussi, qui ne sont pas moi. Donc il y a un univers en dehors de moi qui existe. Alors déjà, Descartes pousse le doute méthodique jusqu'à dire, mais est-ce que je suis bien sûr que cet univers existe ? Est-ce que je ne suis pas là l'objet d'une illusion ? Et puis, je peux pousser plus loin encore le doute méthodique et dire, en fin de compte, est-ce que moi-même j'existe ? Est-ce que je suis pas, est-ce que j'ai pas l'illusion d'exister ? Et est-ce que tout ce que je crois percevoir autour de moi n'est pas finalement l'objet d'une vaste illusion ? Et c'est là que Descartes se rattrape avec sa fameuse formule, j'existe, puisque je pense. N'est-ce pas ? Alors, voyez-vous, il y a une reconstruction de toute la philosophie à partir de l'homme, à partir de l'individu. Et l'individu devient premier, le particulier devient premier sur l'universel. Et finalement, c'est moi qui suis premier, c'est moi qui suis au centre de l'univers. Et toute la tentative des philosophes de l'humanisme, philosophes de la Renaissance, et notamment de Léonard de Vinci, qui, outre le fait qu'il était un grand homme, un grand artiste, et en même temps un grand homme de science, un médecin aussi, n'est-ce pas, était aussi un philosophe. Et Léonard de Vinci est celui qui pousse le plus loin, justement, les conséquences de l'humanisme, et qui se rend bien compte qu'il faut recréer, justement, un universel. Mais cet universel, il le cherche dans la nature, et non plus dans la surnature, pour reprendre l'expression de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, lui, faisait la différence entre la nature, c'est-à-dire ce que nous voyons, ce que nous sentons, etc., et la surnature, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la révélation, ce qui est de l'ordre du divin. Mais justement, l'humanisme commence par mettre en doute la surnature. Est-ce qu'il existe une surnature ? Alors, on ne va pas répondre, a priori. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est la réponse de Normand. Et c'est ça que justement, Léonard de Vinci essaye de retrouver une surnature, mais rationnellement. Non plus par une révélation, mais par la raison. Et toute sa vie, Léonard de Vinci va lutter pour essayer de concevoir rationnellement la surnature. Donc, redécouvrir des universaux. Et puis, il échoue. Il échoue lamentablement. Alors, il meurt en disant, ce que j'ai pas réussi à faire, peut-être que d'autres réussiront à le faire. D'ailleurs, une de ses dernières tentatives de redécouvrir ces universaux, c'est justement la peinture. Et c'est pourquoi il se lance dans la peinture, notamment la fameuse Joconde, etc. C'est un travail philosophique pour lui. C'est une sorte de manière d'essayer de redécouvrir justement les universaux. Et alors finalement, à partir du XVIe siècle, on est dans cet entre-deux. On est dans cet entre-deux au point de vue philosophique où on est tout à fait centré sur la nature, sur l'homme, et puis finalement, il n'y a plus de point de référence, il n'y a plus de point de référence ultime. Alors, s'il n'y a plus de point de référence ultime, un certain nombre de problèmes se posent. Quelle est la signification de mon existence ? Si je ne suis pas en référence avec quelqu'un qui me crée, qui me donne un sens à ma vie, qui m'interpelle en dehors de moi, quelle est la signification de l'homme ? Et justement, l'humanisme qui met l'homme en son centre est incapable de définir ce qu'est l'homme, parce qu'il n'a pas de point de référence en dehors de l'homme. L'homme n'a de point de référence qu'en lui-même, qu'avec lui-même. Alors, pendant tout un temps, il y a l'ancienne philosophie, si vous voulez, thomiste, qui est professée par l'Église catholique et qui coexiste au XVIIe siècle. Entre, si vous voulez, d'un côté vous avez ça, puis de l'autre côté vous avez l'humanisme. Je dirais vous avez une troisième voie, c'est la réforme. La réforme qui naît avec l'humanisme, qui est contemporaine de l'humanisme. Mais la réforme qui, elle, dit là où Vinci a échoué, nous avons une réponse. Il y a une surnature. Et cette surnature, elle est la révélation de Dieu, et la révélation biblique. Et la révélation biblique n'est pas quelque chose d'irrationnel, n'est pas quelque chose qui est contraire à la raison, car s'il y a un Dieu personnel, ce qui, d'ailleurs, est logique. Pourquoi ? Parce que je suis moi-même un être personnel. Ça veut dire que je suis un être unique, qui a son caractère, qui a son tempérament, qui est, comme on le dit, un individu. Alors, s'il y a un Dieu, ce Dieu doit aussi être personnel. Ça veut dire que c'est un Dieu qui lui aussi a la possibilité de s'exprimer, qui est rationnel et qui est logique. Et pourquoi je dis que ce Dieu doit être personnel? Eh bien, parce qu'il crée un univers, l'univers qui m'est donné est un univers rationnel, c'est un univers logique. C'est évident. Il y a les lois de cause à effet qui jouent. Il y a une rationalité. On voit que les choses sont faites pour un but. Le canard a des pattes palmées. Pourquoi ? Ah, c'est pour nager. Donc, il y a une finalité, il y a un but. Donc, il y a ici la révélation du caractère personnel du Dieu qui a créé l'univers. Et si ce Dieu qui a créé l'univers est un Dieu personnel, il est logique qu'il s'adresse à sa créature au travers d'un langage, au travers de propositions parlées, sensées, logiques, rationnelles. Et c'est la révélation biblique. Alors voyez-vous, ça c'est la grande affirmation de la réforme. Alors là, nous avons des universaux automatiquement. Ça veut dire que nous avons un point de référence qui est extérieur à l'homme. Alors ça ne veut pas dire que l'homme n'est rien, comme on avait eu un peu trop tendance à le dire au Moyen-Âge, et l'humanisme est venu à point pour rappeler que l'homme n'était pas rien. D'ailleurs, la réforme dit « Dieu est souverain, il est le maître de l'univers, il règne sur toute chose. » Ça veut dire qu'il règne non seulement dans le domaine de la surnature, mais il règne aussi dans le domaine de la nature. Et par conséquent, la révélation biblique a quelque chose à dire, non seulement pour ce qui est du domaine spirituel, mais la Bible a quelque chose à dire pour la vie physique de l'homme. C'est vrai que la Bible ne méprise pas le corps humain, comme l'avait fait la philosophie thomiste, inspirée par les philosophes grecs, pour lesquels la matière était le péché. Non, dit la réforme, le corps, la matière n'est pas mauvaise, c'est création de Dieu. La Bible a quelque chose à dire dans le domaine de la politique, et c'est la démocratie qui va en être. La démocratie qui est une vision protestante. La démocratie véritable, c'est-à-dire basée sur le consensus de ceux qui ont une norme extérieure. La démocratie telle que la conçoivent les protestants anglais, par exemple, des gens comme Olivier Cromwell ou bien les puritains, c'est pas la loi du plus grand nombre. 51% a décidé, donc c'est ça la vérité, c'est ça le bien. 51% a décidé que l'avortement était légal, donc maintenant l'avortement devient bien. Non. C'est-à-dire que au-delà de la majorité, il y a une norme. Il y a une norme extérieure, c'est pareil. Il y a un universel qui régule tout ça. Et c'est la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu. C'est au Parlement de Berne qu'il y a une peinture qui a été effectuée à cette période-là, qui représente la justice. Et la justice n'est pas représentée, comme dans la plupart des cas, c'est-à-dire par une femme aux yeux bandés qui tient une balance, n'est-ce pas, avec un glaive aveugle, n'est-ce pas, qui rend comme ça la justice dans l'absolu. Non, n'est-ce pas. Mais la justice, c'est représentée par Dieu, n'est-ce pas, Dieu qui siège, sa loi, qui donne sa loi, n'est-ce pas, qui donne la Bible, qui donne la Torah en quelque sorte, les 10 commandements. Voilà la base de la justice. Et la démocratie doit être basée sur quelque chose d'universel, quelque chose de surnaturel, quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose qui vient de Dieu. Et les puritains affirmaient, n'est-ce pas, que si une démocratie n'était pas fondée sur la parole de Dieu, elle n'était plus démocratie. Et nous assistons aujourd'hui à quoi ? À la fin de la démocratie, précisément parce qu'on a oublié ce caractère essentiel de la démocratie. Donc, voyez-vous, ici, il y a une troisième voie, qui est la voie protestante, la voie de la réforme. Et donc, la voie de la réforme, qui est une synthèse entre l'humanisme, qui en prend ce qui est positif, mais qui ne coupe pas la branche sur laquelle était assis. Au contraire, qui la rétablit. Qui la rétablit, si vous voulez, en montrant qu'il y a une continuité entre l'ordre du naturel et du surnaturel, pour reprendre la terminologie de Thomas d'Aquin. Il y a une continuité entre les deux choses. Il n'y a pas un obstacle infranchissable, mais on passe de l'un à l'autre constamment. Et finalement, on le passe d'une manière raisonnable. Alors voyez-vous, ici, il y a un rationalisme qu'on pourrait appeler un rationalisme positif dans la vision de la réforme, mais qui est fort différent du rationalisme du XVIIIe siècle, des Lumières. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les pays qui vont adopter la réforme, l'Angleterre, la Hollande, plus tard l'Amérique, l'Allemagne, en gros l'Europe du Nord, disons, vont être les pays qui vont se développer les plus vite dans tous les domaines, qui vont être les grandes puissances qui vont naître jusqu'à nos jours, en fin de compte. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Justement parce qu'il va y avoir cet extraordinaire élan qui est donné par la vision juste des choses. Une vision juste entraîne des actions justes. Alors, je ne veux pas idéaliser les pays protestants à partir du XVIe siècle. Ils avaient leurs failles, ils avaient leurs tares, c'est sûr. Mais, si vous voulez, la vision globale, la vision de base, était la vision juste. Alors, on dirait qu'il y a eu la bénédiction de Dieu. C'est vrai, il y a eu la bénédiction de Dieu. Mais il y a eu aussi le fait que, ayant un raisonnement juste, eh bien, ils ont eu des actions justes. Ou bien quand Cromwell a persécuté les catholiques à mort, ou bien quand d'autres pays se sont livrés à des excès dans ce domaine-là, ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison. Non, c'est sûr. Mais ça voulait dire que, si vous voulez, même ceux qui n'étaient pas chrétiens dans ces pays-là avaient été marqués, si vous voulez, par le schéma de pensée qui était chrétien, qui était inspiré par la Bible, authentiquement inspiré par la Bible. Et c'est pourquoi, si vous voulez, les pays de l'Europe du Nord, après le XVIe siècle, ont été les pays qui se sont développés le plus, que ce soit l'expansion, par exemple, marchande et commerciale et artistique et culturelle d'un pays comme la Hollande, d'un petit pays comme la Hollande, que ce soit ensuite l'expansion de l'Angleterre au XIXe siècle, la création de l'Amérique avec son expansion jusqu'au XXe siècle, que ce soit l'expansion allemande, etc. C'est le résultat de cette vision-là. Alors, ça, c'est aussi longtemps que, si vous voulez, la vision juste a été au centre de la vie de ces pays-là, eh bien, il y a eu un développement. Et puis, au XVIIIe siècle, eh bien, si vous voulez, la vision biblique s'estompe. Et finalement, le vieil humanisme de la Renaissance, qui avait été un instant occulté, justement, par les progrès de la Réforme, eh bien, va refaire surface. Il va refaire surface parce que dans les pays de l'Europe du Nord eux-mêmes, il y a un affaiblissement de la foi. On a de plus en plus une orthodoxie qui est une orthodoxie morte. Et dans cette orthodoxie morte, eh bien, va naître un nouveau mouvement. Ce nouveau mouvement va être énergisé, si je peux le dire ainsi, par un autre phénomène qui sera le progrès des sciences. À partir du XVIIe siècle, et en particulier au XVIIIe siècle, les sciences vont faire des progrès importants. Ça va être d'abord deux phénomènes extrêmement importants. Il va y avoir des progrès extrêmement importants dans le domaine de l'astronomie d'abord. L'astronomie avec Kepler, qui va élaborer un certain nombre de lois, qui sont dites les lois de Kepler, qui régissent les mouvements des corps célestes, notamment des planètes. Alors bien sûr, c'est encore très embryonnaire, mais il y a déjà là quelque chose de tout à fait important. Deuxièmement, il y a les découvertes de Galilée sur l'héliocentrisme, avec le fameux procès de Galilée, n'est-ce pas ? Et dans lequel l'Église catholique joue un très très mauvais rôle, parce qu'elle va se battre sur une position qui n'est pas tenable, en fin de compte, n'est-ce pas ? Sur une cosmogonie qui est une cosmogonie grec finalement, qui est hérité de l'Antiquité, qui est assimilé, qui est culturel, qui était quelque chose de culturel, et qui est assimilé avec la vérité biblique, avec la vérité révélée. Or, à partir du moment où Galilée parvient à démontrer, bien qu'il se rétracte ensuite, mais où il parvient à démontrer que la Terre tourne autour du Soleil, il a ébranlé ici un dogme fondamental de l'Église catholique. Et à partir du moment où un dogme est mis en question, pourquoi les autres dogmes seraient-ils plus vrais que celui-là? Et il a introduit ici une racine de doute dans l'esprit de ses contemporains, et finalement qui continue jusqu'à nos jours. Et il faut voir, par exemple, comment le pape Jean-Paul II vient de réhabiliter Galilée après des siècles. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Le mal est fait. Et au contraire, sa réhabilitation de Galilée ne vient qu'apporter de l'eau au moulin de ceux qui disent, ben voyez-vous, l'Église catholique s'est toujours trompée, et s'est trompée en tout. Pas seulement sur le domaine scientifique, mais également en tout. Donc si nous pouvons mettre en doute les vérités scientifiques enseignées par l'Église, alors il n'y a pas de raison de mettre en doute les vérités spirituelles qu'elle enseigne aussi. Puis ensuite, nous avons Newton, qui élabore les lois de la gravitation universelle, donc les lois de la mécanique céleste, grâce auxquelles on va pouvoir expliquer un certain nombre de phénomènes qui, jusqu'alors, étaient du domaine du surnaturel. Par exemple, Kepler encore, n'est-ce pas, expliquait, avant justement la connaissance des lois de Newton, le mouvement des planètes par le fait que chacune d'entre elles avait, dit-il, un angelus rector, ça veut dire un ange qui dirigeait les mouvements de la planète en question. Bon, on voit combien aujourd'hui une pareille affirmation ferait sourire. Hein. Et alors vient Newton qui dit qu'il n'y a pas besoin d'expliquer ça par la présence d'un ange, mais tout simplement par des lois mécaniques. Et alors, si vous voulez, petit à petit, de la notion grecque finalement, parce que les Grecs ont été les premiers à avoir une philosophie de la science, c'est pas, et les Grecs avaient cette philosophie qui a été reprise par les pères de l'Église, que, si vous voulez, l'univers était un système global qui était régi par des lois de cause à effet, dans lesquelles, si vous voulez, les séquences causales pouvaient être remises en cause par l'homme lui-même d'abord, c'est-à-dire l'homme avait une certaine liberté, il pouvait influencer sur le cours des événements, il pouvait intervenir dans l'ordre des phénomènes naturels, et a fortiori, il pouvait intervenir dans le déroulement des événements historiques. Donc c'était l'affirmation pleine et entière de la liberté humaine. Et puis deuxièmement, Dieu. Or, les philosophes grecs, eux, justement, se sont heurtés aussi à ce problème des universaux. Et ils ont essayé justement de trouver un point de référence extérieur à l'homme. Mais leur notion de Dieu, si vous voulez, était trop insignifiante pour pouvoir répondre à cela. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une multitude de dieux. Et finalement, les tentatives comme celle d'Aristote, comme celle de Platon et d'autres, surtout Platon, pour essayer de trouver justement, résoudre ce problème des universaux, s'est heurté à un échec. Mais là où justement les philosophes grecs avaient échoué, les pères de l'Église, qui étaient les philosophes, ont réussi. Parce qu'ils avaient la notion du Dieu monothéiste de la Bible. Et à partir du moment donc où nous posons cette idée, n'est-ce pas, que l'univers est un système logique dans lequel qui peut s'expliquer par des séquences de causes et d'effets, mais un système ouvert dans lequel l'homme et Dieu peuvent intervenir librement quand ils le veulent, comme ils le veulent. Enfin, l'homme d'une manière limitée quand même, parce qu'il n'est pas infini, mais Dieu, d'une manière illimitée, parce qu'il est infini, justement, eh bien, nous avons un ensemble cohérent, qui est la vision biblique. Mais à partir de Newton, en particulier, surtout à partir de Newton et de Galilée, eh bien, si vous voulez, ce système ouvert, ça veut dire ce système qui laisse la liberté, surtout à Dieu, d'intervenir dans les séquences causales, ça veut dire qu'il laisse une place au surnaturel, qu'il laisse une place au miracle, est nié. Et nous avons la substitution système ouvert d'un système clos. Ça veut dire d'un système où les séquences causales se déroulent d'une manière mécanique. Ça veut dire où l'univers n'est plus qu'une machine et où l'homme lui-même, dans la mesure où il ne peut plus intervenir dans les séquences causales, n'est plus aussi lui-même rien d'autre qu'une machine. Et ce système philosophique, ce système de la vision philosophique des sciences, de l'univers, si vous voulez, cette cosmogonie, eh bien, a subsisté jusqu'à nos jours. Et c'est aujourd'hui celle de la majorité des savants. Ça veut dire que l'univers est un système clos, c'est une vaste mécanique, une vaste horloge qui fonctionne selon des lois immuables qui ont toujours été ainsi et que rien ne peut remettre en question, que rien ne peut changer. Donc, Dieu, si Dieu il y a, est extérieur à ce système. Il en a été au plus le Deus ex machina, c'est-à-dire celui qui a donné la chiquenaude initiale, qui a mis en branle l'ensemble, et depuis, il n'a plus le droit d'intervenir dans le système qu'il a créé. Donc, il n'y a plus de surnaturel, il n'y a plus de miracle, il n'y a que le naturel. Et ensuite, on arrive à un astronome dont j'ai oublié le nom, qui était contemporain de Napoléon, n'est-ce pas, qui avait découvert la planète Vénus. Tu me diras ça tout de suite. Pas Vénus, la planète Neptune. Tu me diras son nom, non? Sans réfléchir, j'ai oublié son nom. C'est Le Verrier, l'astronome Le Verrier. Le Verrier qui avait constaté que les mouvements des planètes les plus lointaines, par exemple la planète Uranus et Saturne en particulier, étaient perturbés par certainement un corps qui faisait qu'elle n'avait pas une trajectoire normale, selon les lois de Newton. Alors il a dit, bien c'est que vraisemblablement, il y a au-delà un corps céleste qui n'a jamais été identifié encore, mais qui perturbe justement la trajectoire de ces planètes au nom justement de la théorie de l'attraction universelle de Newton. Alors il a fait des calculs savants pendant des mois, et puis un jour, n'est-ce pas, il a dit aux astronomes, braquez votre télescope dans telle direction, dans tel azimut, et vous allez découvrir certainement un astre nouveau. Et de fait, on a découvert la planète Neptune. Alors Napoléon était complètement rempli d'admiration, il était venu voir Le Verrier, et puis il a dit, expliquez-moi comment vous avez fait cet exploit, n'est-ce pas, sans regarder dans le ciel, de découvrir une nouvelle planète. Alors Le Verrier lui a expliqué ses calculs, etc. Napoléon était assez intelligent pour en comprendre l'essentiel. Et puis Napoléon lui a posé la question, et Dieu dans tout ça? Et Le Verrier lui a répondu, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est devenu une loi scientifique aujourd'hui. Dieu est une hypothèse dont les savants doivent obligatoirement se passer. Pourquoi ? Parce que le système de l'univers est un système clos. Alors, voyez-vous, ce sont ces deux éléments, l'humanisme de la Renaissance, et puis le scientisme qui naît au XVIIIe siècle, à partir de Galilée, qui vont donner naissance aux idées des Lumières, c'est-à-dire à la primauté de la raison. Ça veut dire que l'homme rejette tout ce qui est surnaturel, tout ce qui n'est pas l'objet de son expérience, est nié systématiquement. Et tout ce qui n'est pas explicable scientifiquement est nié. L'humaniste ne veut connaître, ou le rationaliste, on n'appelle plus ça les humanistes à cette époque-là, mais ils sont les héritiers des humanismes de la Renaissance, ne veut connaître que ce qu'il est capable d'élaborer par sa raison seule, sans aucune référence à une révélation. Et là, nous voyons la grande différence avec la Réforme. La Réforme avait une vision rationnelle. Nous ferons la différence entre le rationnel et le rationalisme. Ça veut dire que l'idée d'une révélation surnaturelle n'est pas contraire à la raison. Elle s'inscrit dans la logique des choses, car s'il y a un Dieu, c'est normal qu'il parle. C'est tout simplement ça. S'il y a un Dieu personnel, c'est normal qu'il parle. Parce que moi qui suis une personne, je parle. Moi qui suis une personne, je communique avec mes semblables. Donc si Dieu est semblable à moi en tant que personne, c'est cela que nous dit la Bible quand elle nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, il est normal qu'il cherche à me parler. Bon. Donc ça, c'est rationnel. C'est une vision rationnelle. Mais le rationalisme dit, moi je n'ai jamais entendu Dieu me parler directement, avec une voix humaine, avec une voix audible. Donc je dis que Dieu ne parle pas, parce que je ne l'entends pas parler, tout simplement. Je dis que Dieu est une hypothèse, parce que je n'ai jamais vu Dieu de mes yeux, comme j'ai vu une molécule dans mon microscope, ou comme j'ai vu une étoile dans mon télescope. Le jour où je verrai Dieu dans mon télescope, je commencerai à y croire. Voilà ce que dit le rationalisme. Voyez-vous ? Et si vous voulez, c'est ramener tout à la dimension de l'homme, au petit cerveau humain. Ce qui fera dire à Darwin beaucoup plus tard, d'ailleurs, quand il élaborera sa théorie, on lui demandera, mais est-ce que tu crois vraiment que l'homme descend du singe? Ben, il a dit quelque chose comme ça, il a dit, si vraiment mon cerveau est le cerveau d'un singe, ben, je n'ai pas beaucoup de crédit à faire à ce cerveau-là. C'était très juste. Une réflexion sensée pour une fois. Alors on voit ici le caractère extrêmement orgueilleux, et en même temps extrêmement limité de l'homme, n'est-ce pas, qui s'imagine qu'il va pouvoir tout découvrir. Alors bien sûr, les rationalistes du XVIIIe siècle ne peuvent pas tout expliquer. Mais ils ont une foi aveugle et illimitée dans la raison. Et la raison, c'est la science. La science, un jour, expliquera ce qui est inexplicable aujourd'hui. Et pour ça, nous n'avons pas besoin, comme disait Le Verrier, de l'hypothèse Dieu. Voyez-vous ? Or, ce dont nous vivons aujourd'hui, dans notre fin du XXe siècle, c'est sur ces théories-là qui ont été posées au XVIe et au XVIIIe siècle. Voyez-vous ? C'est pourquoi étudier le rationalisme du XVIIIe siècle, c'est quelque chose d'essentiel pour comprendre notre temps et pour comprendre notre génération. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir, après cette introduction sur la philosophie des Lumières. On aura l'occasion d'y revenir plus longuement la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ?